Plus de toi, nous voulons élever ton nom haut et reconnaître combien tu es unique. L'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité, lui seul a été trouvé digne, très digne, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sept sceaux. Car ni sur la terre, ni dans les cieux, aucun homme, ni aucun être divin, aucun être dans les cieux n'a été capable, par son sacrifice, de réconcilier l'humanité avec Dieu. Aucun, si ce n'est l'agneau de Dieu immolé. Nul n'est comme toi. L'agneau de Dieu est digne, très digne, de recevoir richesse, honneur, louange, gloire, célébration, admiration, dévotion, acclamation d'un cœur reconnaissant. Les nations entières reconnaissent que tu es Dieu. Les nations entières reconnaissent que tu es Dieu. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, parce que tu as donné de ton rang. Tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu, mais tu t'es abaissé au statut d'homme de chair. Seigneur, et tu as donné de ton sang afin que nous soyons non seulement rachetés entre les mains de l'ennemi, mais que nous soyons pardonnés, réconciliés avec Dieu. Nul n'est comme toi. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix. Tu as pris ma honte sur toi, et par amour, tu m'as donné ta grâce. Oui, merci pour ta bonté, merci, merci pour les Seigneur notre Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé, le plus beau de tous les fils de l'homme, notre sauveur, notre rédempteur qui se lève le dernier, celui qui est venu nous chercher dans la boue du péché, celui qui par son sacrifice a permis au Père de nous prendre du royaume des ténèbres, nous transporter dans celui du Fils de son amour. Qui est comme toi? Seigneur, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu as dépouillé Satan, tu as dépouillé les autorités de leur pouvoir, de leur autorité. Aujourd'hui, ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Tu as réduit le péché à néant. Aujourd'hui, nous pouvons dire, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Oui, Seigneur, tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Aujourd'hui, nous sommes en vie avec toi, car tu es ressuscité des morts et nous sommes ressuscités avec toi. Oui, tu es monté auprès de Dieu avec nous en toi. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la richesse, reçois la célébration des cœurs reconnaissants, reçois notre action de grâce, reçois notre reconnaissance. Merci parce que tu as permis que nous soyons connus de Dieu. Merci parce que tu as permis que nous ayons accès à Dieu. Merci parce que tu as permis que Dieu nous entende. Par ton sang, tu nous laves. Par ton sang, tu nous distingues. Par ton sang, tu nous rends capables de parler à Dieu, d'être entendu de Dieu. Nul n'est comme toi. L'agneau de Dieu est digne. Jésus-Christ, tu as traversé avec succès les épreuves d'obéissance, les épreuves de soumission. Tu as traversé traversé ces épreuves avec succès, Seigneur. Car nul, par son sacrifice, en dehors de toi, n'était capable de réconcilier l'humanité avec Dieu. Nul, Seigneur, n'était capable. Tu t'es humilié. Seigneur, tu as donné à l'humanité, aux choses visibles et invisibles, le témoignage de la plus grande humilité à Dieu, la plus grande dévotion pour Dieu et pour Dieu seul. Nul n'est comme toi, humble, obéissant. Seigneur, tu as fait preuve de la plus grande responsabilité, Jésus-Christ, car tu ne nous as pas laissés orphelins lorsque tu es parti. Tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il prendra la vérité qui est de moi et vous l'enseignera. Accorde-nous, Seigneur, comme Paul a pu dire, d'être tes imitateurs. Comme Paul a pu dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Accorde-nous de te ressembler dans cette génération, Seigneur. Accorde-nous de te refléter dans cette génération, comme nous l'être comme tu es, tel tu es. Je désire être comme toi, mais j'aspire à être comme toi, oui, tel tu es. Tel tu es, Jésus-Christ, je veux être. Moi, je désire être comme toi, saint pur. Oui, je désire être, j'aspire à être comme toi. Oui, tel tu es. Je
let's see.
promesse par la foi.
Je sais
par la foi que Abraham quitta sa demeure et suivit Dieu dans un endroit qu'il ne connaissait pas. C'est par la foi qu'il a espéré au-delà de toute espérance. C'est par la foi qu'il reçut Isaac. C'est par la foi, Seigneur, que Abraham, Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur de la fournaise. Ils ont cru que le Rédempteur qui se lève le dernier est capable. C'est par la foi, Seigneur, que même Jésus a marché, qu'il a accompli la passion. C'est par la foi, Seigneur, nous aussi, Seigneur, accorde-nous d'être remplis de foi. Tel tu vois, je me vois, oui, tel tu vois, oui, tel tu vois, je veux,
je veux.
Seigneur, fais que ma vie. Tes desseins en son temps, dans sa génération. Accorde-nous, Seigneur, d'être rempli du Saint-Esprit, car tu dis que vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Il vous permettra de témoigner de moi. Fais que ma vie, et nous chantons, fais que ma vie. Sur cette terre, accorde-moi d'être passionné de toi, Seigneur. Non seulement aujourd'hui, mais demain aussi, Seigneur. Ne permets pas qu'on dise à mon sujet, Seigneur Jésus-Christ, après avoir commencé par l'esprit, il a fini par la chair. Accorde-nous, Seigneur, de rester attaché à toi, comme le sarment, Seigneur. Tout sarment lié au cèpe, Seigneur, demeure productif. Fais que ma vie fasse ta joie, Seigneur. Fais que ma vie fasse ta joie. Et puis élève la voix à ton Dieu. Fais que ma vie fasse ta joie, Jésus. Fais que ma vie fasse ta joie. Ce matin, cœur sincère, viens se livrer. Ce matin, cœur sincère, viens s'abandonner à toi. Accorde-nous que nos vies comptent. Accorde-nous, Seigneur, que nos vies comptent. Façonne-nous, sature-nous de toi. Taille-nous, Seigneur, façonne-nous selon ton plan. Inonde-nous de ton Esprit Saint. Façonne-nous de ton Esprit Saint. Accorde-nous ton Esprit Saint. Jésus, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi pour faire ton plaisir, Seigneur. Alors change nos cœurs de pierre au cœur de chair. Change nos cœurs rebelles à ta parole au cœur doux, Seigneur. Ramène-nous, Seigneur, à toi. Pardonne-nous nos échecs. Pardonne-nous ces épreuves que nous avons échouées. Mais accorde-nous dans ta grâce, Seigneur, de revenir sur les rails de ton chemin. Accorde-nous, Seigneur, que nos vies, fait que ma vie, fait que ma vie fasse ta joie. Fait que ma vie fasse ta joie. Fait que ma vie, fait que ma vie
fasse ta joie.
Seigneur, accorde-nous de réussir avec toi. Accorde-nous de faire des exploits avec toi, Seigneur. Accorde-nous de te faire plus confiance. Accorde-nous que notre foi soit plus grande, Seigneur. Fais que ma vie, fais que ma vie, comme Jésus, oui, comme Jésus, t'obéis. Comme Jésus, te servir.
Seigneur. Tel tu es, tel nous sommes aussi dans ce monde. Que nos vies fassent ta joie. Dans l'obéissance, dans le service. Père, que nos vies fassent ton plaisir, fassent la joie et le plaisir de ton cœur. Tu as revêtu ce corps de mort afin de nous donner la vie éternelle. Tu as revêtu ce corps afin de nous montrer la voie. Ta parole déclare que tu as inauguré la voie. Tu as créé une route nouvelle au moyen de ton sang, en déchirant ta chair, afin de nous donner un libre accès à la présence éternelle de Dieu. Voilà pourquoi tel tu es, tel nous sommes dans ce monde. Si j'ai un corps, Seigneur, c'est pour te servir. Si j'ai des mains, Seigneur, c'est pour les élever vers toi. Ce n'est pas pour serrer les mains premièrement, non Seigneur, c'est pour les élever vers toi. Si j'ai des yeux, c'est pour voir comme tu vois. Si j'ai une bouche, c'est pour proclamer ta parole et tes oracles. Si j'ai des oreilles, c'est pour entendre le son de ta voix. Ah Seigneur, tel tu es, tel nous sommes. Et Seigneur, dans l'assemblée des fidèles ce matin, dans l'assemblée des fidèles ce matin, quelqu'un est reconnaissant parce qu'il a, engendré une nouvelle race, un nouveau peuple, la nouvelle création. Ah, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ce corps, dans cette chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ah, est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Toi qui étais mort hier, il t'a ramené à la vie. Ah, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tel tu es, tel je suis, Seigneur. Andarabos. Ah, tel tu es, tel je suis. Consume-moi, que ma vie fasse la joie et le plaisir de ton cœur. Ne me laisse pas d'autre choix, ne me laisse dévier ni à gauche ni à droite. Utilise ce que tu veux, mais garde-moi dans tes voies, Seigneur. Garde-moi dans tes voies tous les jours de ma vie, jusqu'à ton retour, ou jusqu'à ce que je finisse la mission pour laquelle j'ai été suscité dans ma génération. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort, là où tu te trouves maintenant? Acclame le Seigneur, pousse des cris de joie, bien-aimé. Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne, il est digne. Merci Seigneur, tel tu es, tel je suis sur cette terre. Alléluia. Je suis fier de dire que je t'appartiens, Seigneur. Mon frère, ma soeur est fier de dire qu'il t'appartient. Seigneur, nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons. Tu es digne de gloire. Toi qui as ouvert le livre et qui as rompu les sceaux. Nul dans les cieux, nul sur la terre, nul sous la terre ne fut trouvé digne, si ce n'est l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit, je vais dans l'assemblée des rachetés. Est-ce qu'un racheté, ce matin, peut élever sa voix, pousser des cris de joie, acclamer encore très fort le Seigneur? Si tu reconnais qu'hier tu n'étais rien, si tu reconnais que ta vie hier n'était rien, alors pousse des cris de joie ce matin. Alléluia.
Alléluia. Tu es bon, tu es digne, tu es tout puissant. Tu es bon, tu es digne, tu es tout puissant. Tu es bon, tu es digne, tu es tout puissant.
Oh bien-aimé, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue à ICC Impact Centre Chrétien, l'une des nombreuses ambassades du royaume de Dieu, un endroit où le Saint-Esprit transforme des moins que rien en plus que vainqueurs, un endroit où les vies qui étaient détruites hier sont reconstruites par la puissance de Dieu. Et si tu te reconnais dans cette prière, dans cette déclaration, alors acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Nous voulons prendre le temps aussi de saluer la grande famille CC répartie dans les différents campus. nos campus, soyez les bienvenus. Nous voulons aussi saluer nos bien-aimés qui sont connectés avec nous sur Internet. Vous êtes connectés sur le bon site, vous avez ouvert la bonne page, vous avez cliqué sur le bon lien, vous êtes connectés à la bonne source, soyez les bienvenus. Avant de prendre place, prenons le temps de saluer l'excellence qui se trouve à gauche, à droite. Dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit. Je suis honoré d'être à tes côtés, d'être assis à côté de toi. Alléluia. Oh, il y a de la joie ce matin. Bien-aimé, le Saint-Esprit au milieu de nous. Merci de bien vouloir prendre place. Nous avons quelques annonces importantes à vous communiquer et nous vous demandons toute votre attention. Alors, comme nous le savons, la période estivale touche bientôt à sa fin et la rentrée scolaire arrive à grands pas et nos enfants sont dans la joie de retourner à l'école, mais la nouvelle création aussi est dans la joie parce que la nouvelle création va aussi fêter sa rentrée. Amen. Nous avons la joie de vous annoncer le parcours de croissance de la nouvelle création, c'est-à-dire les cours sur les fondements du royaume et sur les trois piliers majeurs de la maturité spirituelle reprennent. Amen. Donc les cours 101, qu'est-ce que c'est que les cours, les fondements du royaume? Si vous voulez savoir qui est Dieu, si vous désirez savoir quel est le message central de la Bible, à savoir le royaume de Dieu, pourquoi Jésus est venu sur terre, pourquoi vous êtes assis là où vous êtes assis aujourd'hui, pourquoi, qui nous sommes, qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que la croix, toutes ces choses-là, nous allons les aborder dans les formations 101 sur les fondements du royaume. Cette formation s'adresse à non seulement tous les nouveaux convertis, ça va de soi, mais aussi à toutes les personnes qui sont désireuses d'expérimenter la puissance de Dieu sur cette terre, de marquer leur génération. En réalité, cette formation est pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore faite. Si tu es ici et que tu n'as pas encore fait la formation 101, ça sera le bon moment pour la commencer. Amen. Cette formation est également le prérequis pour toutes les personnes qui souhaitent passer par les eaux du baptême. Et dans la continuité des cours sur les fondements du royaume, il y a les trois piliers majeurs de la maturité spirituelle, les cours 201. Dans cette formation, vous apprenez à comment prier de manière efficace et productive, comment laisser la méditation de la parole changer notre manière de vivre. Donc pour participer à la formation 201, il est indispensable d'avoir suivi au préalable la formation 101. Évidemment, on n'envoie pas nos enfants au collège, premièrement, on envoie nos enfants à l'école primaire. Amen. Donc si tu n'as pas fait les 101, ça ne sert à rien d'aller te présenter au 201. Passe d'abord par les fondements du royaume. Dis à ton voisin, passe par les fondements. Donc les cours débuteront donc le mercredi 4 septembre de 19h15 à 21h45 pour les personnes qui souhaitent faire les cours en semaine, ou alors le samedi 7 septembre de 11h à 13h30 pour ceux qui préfèrent faire le week-end. Donc à partir du mercredi 4, une série de plusieurs mercredis, nous nous retrouverons ici le soir pour les cours 101 et 201, ou alors à partir du samedi 7, sur plusieurs samedis, nous allons nous retrouver ici de 11h à 13h30. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez écrire à formation@impactcentrechretien.com. Dans le cadre de ces activités, toute la journée du samedi 7 septembre, l'association On est ensemble, comme on vous l'a dit la semaine dernière, du ministère de la Solidarité, organise une grande campagne de collecte alimentaire en faveur des personnes qui sont dans le besoin, dans un grand centre commercial à Boissy-Saint-Léger. Ça sera un excellent moyen de sortir de nos murs. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous allons répandre un bon parfum dans ce centre commercial. Nous allons distribuer des affiches. Nous allons avoir des entretiens avec les riverains, faire des collectes alimentaires. Donc si vous désirez participer à cette opération, dans la grande salle des enfants à côté de la librairie, il y aura une équipe qui se fera un plaisir de vous informer sur tout ce qui va être fait, sur le rendez-vous et tout ça. Et vous pouvez écrire à onestensemble@impactcentrechretien.com. Si vous désirez être un adorateur qui vit avant toute chose pour réjouir le cœur de Dieu et pour révéler sa gloire, si vous désirez être un serviteur qui a choisi de mettre sa vie au service des autres, un laboureur qui sème abondamment dans la vie afin de récolter abondamment, nous vous annonçons que la rentrée de notre école biblique va commencer et elle approche à grands pas et les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Et si vous vous inscrivez avant le 29 septembre, vous avez le droit à un tarif préférentiel. Et dans le cas où vous avez déjà fait UEBI, alors nous croyons que tout ce que j'ai dit au-dessus est déjà votre partage. Il y a aussi une information très importante concernant l'école biblique, c'est qu'il existe aujourd'hui des chèques cadeaux UEBI par lesquels vous pouvez donner la possibilité à une personne, en semant dans sa vie, en offrant un chèque cadeau, de pouvoir participer à cette école. Donc les chèques cadeaux, qu'est-ce que c'est? J'en ai un, je vous montre un peu l'exemple. Les chèques cadeaux permettent en fait de régler une ou plusieurs tranches de frais de scolarité pour le compte d'une personne. Ainsi, vous pouvez aisément semer dans la vie d'un bien-aimé qui n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de pouvoir payer totalement ou en intégralité.
Donc vous savez, le plus grand cadeau qu'on puisse faire à une personne après qu'elle ait reçu Christ, c'est de lui donner l'accès, l'opportunité d'avoir part à la connaissance de Dieu au travers d'enseignements consistants qui transformeront sa vie. Si ça a transformé ta vie, c'est que ça va transformer aussi sa vie. Amen. Donc ce dimanche 25 aujourd'hui et dimanche prochain, à partir de 4 chèques cadeaux, les frais de dossier seront offerts. Donc nous invitons à aller d'ores et déjà au stand IEBI dans la grande salle des enfants à la fin du culte. Ou alors vous pouvez aller sur www.ecolebiblique.com pour consulter toutes les informations dont vous avez besoin. Et enfin, il y a un événement sportif à ne surtout pas manquer avant la rentrée, qui aura lieu samedi prochain, organisé par le ministère des activités récréatives et sportives de l'Église, la rencontre intercampus autour du sport. Donc samedi prochain, de 10h à 18h à Choisy-le-Roi, au chemin des Bœufs Plaines Sud, nous nous retrouverons pour une journée sportive. Cette rencontre réunira les frères et sœurs de plusieurs campus, le campus de Boissy-Saint-Léger, bien sûr, de Paris-Nord, de plusieurs campus en France, le campus de Bruxelles. Ça sera un excellent moyen de communier les uns avec les autres et de nous décrasser un peu avant la rentrée. Amen. Et durant ces temps, nous prouverons que le campus de Boissy-Saint-Léger abrite les meilleurs sportifs de tous les campus. Amen. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Nous allons montrer qui sont les meilleurs sportifs. Pour plus d'informations sur cet événement, vous pouvez écrire à activité@impactcentrechretien.com. Il y a un stand également qui est mis à votre disposition à la fin de ce culte. Nous allons continuer maintenant notre culte en apportant à la maison du trésor nos dîmes, nos offrandes. Je vais demander à tous ceux qui le peuvent de bien vouloir se tenir debout. Vous savez, ce moment-là aussi fait partie du culte que nous rendons à Dieu. Ce n'est pas juste l'adoration par nos bouches, c'est par nos actes aussi. Et nous allons, avant de continuer à chanter, à danser, à louer, prier pour nos dîmes et nos offrandes. Père de grâce, nous te bénissons. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui d'être dans ta maison. Seigneur, tout ce que nous avons t'appartient. Seigneur, peut-être que quelqu'un aujourd'hui a décidé de semer et il sème avec larmes. Mais Seigneur, ta parole déclare qu'il moissonnera avec chant d'allégresse. Que ce chant que nous allons chanter juste après, Seigneur, soit un chant d'allégresse prophétique dans la vie de chacun qui aura semé dans ta maison. Merci pour les dîmes, tu menaces celui qui dévore. Et merci pour les cascades de témoignages qui couleront sur la vie de ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Alléluia. Seigneur, notre cœur est racheté, veut t'acclamer, est racheté, veut te célébrer, veut te louer. À qui rendons-nous la gloire? Nous promettons de rendre la gloire à toi et à toi seul. Toi notre Rédempteur, toi notre Sauveur, toi notre bien-aimé, toi notre Père, qui nous a tant aimé que tu as offert Jésus-Christ. À toi seul, éternel Dieu tout-puissant, Père de gloire, nous promettons de te rendre la gloire. Oh, oui, Père, tes enfants chantent gloire, gloire. Oui, alléluia, tu es. Oui, Père, tes enfants chantent gloire, gloire. Alléluia, tu es. Église, chante avec nous, Père, tes enfants chantent gloire. Racheté, qui s'élève des plaines africaines. Oh, oui, c'est le chant des pardonnés, plus fort que les fruits d'Amazonie. Le chant des chrétiens d'Asie, rempli d'esprit et de feu. Nation, telle une chorale t'offre ce chant d'amour. Père, oui, Père, tes enfants chantent gloire, gloire. Alléluia,
alléluia, tu es.
À toi seul la gloire.
Père, tes enfants chantent gloire, gloire.
Alléluia,
alléluia, tu es.
Oh, c'est le chant des rachetés. Oui, c'est le chant des rachetés. S'élève des plaines africaines. Oh, c'est le chant des pardonnés. C'est le chant des pardonnés. Plus fort que les pluies d'Amazonie. le chant des chrétiens,
le chant des chrétiens d'Asie, rempli d'esprit et de feu. Toutes les tribus, tous les peuples, toutes les nations, tel les chorales t'offrent ce chant d'amour.
Oui, Père,
oui, Père, tes enfants chantent. Chante gloire,
alléluia,
alléluia, tu es.
Oui, Père, oui, Père,
oui, Père,
nous promettons de te rendre la gloire.
Alléluia,
à toi seul, Dieu tout puissant.
Père, tes enfants, chante gloire, gloire,
alléluia,
alléluia, tu es.
Car toutes les puissances des ténèbres le seul son de sa voix. Oui, toutes les puissances des ténèbres se dispersent devant sa sainte parole. Car toutes les puissances
des ténèbres
tremblent, se dispersent, elles sont dissipées. Oui, toutes les puissances,
car toutes les puissances des ténèbres se dispersent devant sa sainte parole.
Guéris, Seigneur,
nous te rendons la gloire
pour les paralytiques qui marchent.
Nous te rendons la gloire,
Seigneur, pour les morts ramenés à la vie. Nous te rendons la gloire, Seigneur, pour ton bâton dans la vallée d'ombre de mort. Nous te rendons la gloire pour ta présence dans notre solitude. Nous te rendons la gloire pour ton amour lorsque nous faiblissons. Nous te rendons la gloire à toi seul,
Père,
tes enfants. Que soit nos vies qui t'admirent, que soit nos chants qui te célèbrent, que soit nos cœurs qui te célèbrent, Père des enfants chanteurs. Alléluia. Oui, Père des enfants chanteurs. Établis ton gouvernement, nous. Tu règnes, Jésus-Christ. Tu règnes.
Alléluia. 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 Ma vie t'appartient, ma vie est à toi, Seigneur. Ma vie t'appartient, je te la donne, Seigneur. Tu m'as racheté, tu m'as lavé, tu m'as nettoyé, tu m'as sauvé. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Tu m'as restauré, tu m'as lavé. m'as nettoyé, tu m'as fortifié. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Seigneur, Seigneur, ma vie t'appartient. Je te la donne. Ma vie t'appartient. Ancien des jours, ma vie t'appartient. Je veux te la donner. Ma vie t'appartient. Ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie t'appartient. Je te la donne, Père. Ma vie t'appartient. Je respire parce que tu me le permets. Je vois, c'est une grâce. Je marche, c'est une grâce. Ma vie t'appartient. Je respire, c'est la grâce de Dieu. Ma vie t'appartient. Je vis, c'est une grâce. Ma vie t'appartient. Je veux tout te donner. Je te donne ma vie. Je te donne tout. Ce que j'ai, ce que je suis. Ma vie t'appartient. Je t'appartiens, Seigneur.
Ma vie t'appartient.
Tu es l'Adonai de ma vie, le propriétaire de ma vie. Ma vie appartient au roi de gloire. Ma vie t'appartient, Seigneur, je te l'adore. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je te l'adore. Je laisse de côté. Seigneur, ma vie t'appartient. Je te donne tout, ma vie doit compter.
Ma
vie t'appartient. Tu es digne de recevoir ma vie en sacrifice. Ma vie t'appartient. C'est le chant. Je te l'adore. Tu m'as créé. Tu m'as racheté. Ma vie t'appartient. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie t'appartient. Je ne me suis pas fait tout seul. Je ne me suis pas créé moi-même. J'ai un créateur. J'ai un propriétaire. Seigneur, ma vie t'appartient. Je veux faire ce que tu veux. Je veux faire le pourquoi tu m'as suscité. Je veux faire le pourquoi tu m'as créé. Ma vie t'appartient. Je veux le dire au monde entier. Ma vie t'appartient. Il faut que tout le monde le sache. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie, ma vie, ma vie, je te la donne, sublime-la. Ma vie est à toi, oh la meilleure, oh la différente. Ma vie t'appartient, sublime, sublime ma vie. Donne-lui de la saveur, Seigneur, donne-lui du relief. Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie, elle doit compter, elle doit rayonner, elle solution. Ma vie doit être une réponse pour les nations. Ma vie t'appartient, je veux le dire encore. Ma vie, elle est à toi Seigneur. Ma vie, je te donne tout, je te donne ce que j'ai et ce que je suis. Ma vie, mes forces, mes pensées sont à ton service. Ma capacité de réflexion, ma capacité de raisonnement, tout est à ton service, Seigneur. Ma vie, ce que j'ai, ce que je suis, ma vie t'appartient. Ma vie doit porter du fruit. Elle doit faire. Elle doit faire la différence. Elle doit faire sortir du fruit ma vie. Elle doit transporter le Saint-Esprit, diffuser la bonne odeur de Christ. Ma vie t'appartient. Ma vie, oui, ma vie t'appartient. Oh, elle t'appartient. Ma vie, oh, elle t'appartient. Ma vie, oh, elle t'appartient. Elle t'appartient, elle est à toi, je te la donne, tu m'as créé, je l'abandonne, ma vie t'appartient, je ne fais rien de moi-même. Mais je veux faire ce que je dois faire au Père. Je veux imiter le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, c'est ce que le Père fait. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire exactement la même chose. Accorde-nous la grâce d'être des imitateurs de Dieu, comme des enfants, Seigneur. Merci. Ma vie, ma vie t'appartient, ma vie t'appartient. Est-ce que tu peux le dire aussi? Ma vie t'appartient. Dis-lui, dis-lui, ma vie.
Ma vie t'appartient.
C'est une confession, ma vie.
Ma vie t'appartient.
Je te donne plein pouvoir dans ma vie, je te donne tout, le gouvernail de ma vie, les rênes de ma vie, de mon existence. Ne prends pas simplement la première place, mais prends toute la place, Seigneur. Ma vie, ma vie t'appartient. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta présence. C'est ta présence qui fait la différence. C'est ta présence qui change une atmosphère. Merci. À toi soit toute la gloire. Notre Père et notre Dieu. Nous sommes fiers de t'appartenir. Fiers d'être appelés du nom de l'Éternel. Fiers d'être tes enfants. Fiers de te servir également. Merci Seigneur. Reçois l'expression de notre gratitude cet après-midi. Reçois nos acclamations Seigneur. Reçois nos acclamations comme un signe de notre gratitude et de notre dévotion envers toi. Quelqu'un en ce lieu veut simplement pousser un cri de joie. Il y a quelqu'un en ce lieu qui veut simplement acclamer comme il se doit le roi de gloire. Quelqu'un en ce lieu, quelqu'un connecté, quelqu'un en direct veut simplement là où il est, joindre les mains et acclamer le roi de gloire. Parce que nos vies entières t'appartiennent. Tu es le propriétaire, le créateur, le racheteur, celui qui a racheté nos vies. Elles t'appartiennent doublement, Seigneur. En tant que créateur et en tant que racheteur. Merci. À toi soit toute la gloire. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Nous avons pu voir la lumière de ce jour. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, avec foi et avec action de grâce. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur encore cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut lui dire Seigneur, ma vie t'appartient? Elle est à toi, je te la donne. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, encore une fois, bienvenue à ICC, Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Bienvenue dans cet endroit qui transforme des hommes et des femmes ordinaires en véritables champions et championnes de Dieu. À cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de la parole de Dieu, cette parole qui nous enrichit, qui nous alimente, qui nous exhorte, qui nous encourage, qui nous édifie. Mon ami, si tu es là et si tu prends pour habitude de venir, de revenir régulièrement, tu as toutes les chances de réussir. Tu as tout pour réussir. Et il te sera difficile d'échouer. Dis à ton voisin, si tu t'accroches au Seigneur, il te sera difficile d'échouer. Alléluia. Veuillez prendre place sans avoir salué votre voisin, votre voisine à côté de vous. Et nous voulons par la même occasion, encore une fois, souhaiter la bienvenue à tous nos bien-aimés qui sont répartis dans les différents campus ICC à travers le monde. Et également toute la famille ICC qui est répandue sur Internet et qui ils sont avec nous. Certains voudraient tellement venir, tellement être là au milieu de nous, mais ils ne le peuvent pas. Ils le pourront un jour que quelqu'un dise amen. Mais pour l'heure, ils sont avec nous dans le même esprit, dans la même vision, dans la même, avec la même passion, la même soif de Dieu. Et nous savons qu'en esprit, il n'y a pas de distance. Donc là où vous êtes, bien-aimés, dans votre salon, en famille ou bien entre amis, vous qui êtes connectés à la bonne fréquence, comme a dit tout à l'heure notre frère Johan, vous avez cliqué sur le bon lien, vous êtes la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Okay? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alors, depuis 4 jours déjà, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 4 jours déjà, depuis jeudi soir, Le pasteur Yvan et pasteur Maud sont à Cotonou pour une conférence là-bas, une conférence qui a pour but vraiment de, au-delà du thème qui est évoqué, qui a pour but de célébrer Dieu pour les 1 an de ICC à Cotonou. Que quelqu'un dise amen, c'est une excellente chose. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire là-bas. Je n'ai pas eu le pasteur Yvan ni pasteur Maud au téléphone entre-temps, mais j'ai pu voir sur Internet, sur Facebook, les différentes photos de la conférence. Et vraiment, ça m'a fait tellement plaisir de voir l'endroit à Cotonou, pour ceux qui connaissent Cotonou, l'endroit qui possède la plus grande plateforme d'accueil pour une conférence, c'est le Palais des Congrès là-bas. Et il est plein, il est grand, il est plein. Vous avez un premier niveau, un deuxième niveau, et j'ai vu sur les photos, mon cœur était réjoui de voir qu'il n'y avait plus de place libre et surtout de voir l'expression sur les visages des gens qui étaient là. C'est extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que devant le Palais des Congrès, vous avez une grande esplanade. Je le sais parce que j'ai déjà été à Cotonou, vous savez. Voilà. Il y a une grande esplanade et sur cette esplanade, ils ont mis un grand écran géant et ils ont aligné des chaises et des chaises. Et tout est plein. Et on ne peut que célébrer Dieu.
pour ce genre de choses. On ne peut que le célébrer. Alléluia. Et je me suis posé la question, est-ce qu'un dirigeant sur la terre, est-ce qu'un dirigeant dans ce pays peut réunir autant de personnes dans un même endroit sans les obliger? Parce que vous savez, il y a des endroits où on t'oblige à venir. On t'oblige à venir pour célébrer. Mais est-ce qu'un dirigeant peut attirer autant de personnes qui viennent du nord, du nord du Bénin, de l'est, de l'ouest, qui viennent même des pays limitrophes, pour venir pour une seule personne, pas pour le pasteur Yvan, mais pour la personne du Saint-Esprit qui a voulu parler à travers la bouche de son serviteur? Moi, quand je vois ça, je dis alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour l'impact que tu es en train de faire à partir de nombreuses plateformes sur la terre, et notamment la plateforme ICC. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alléluia. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Dis à ton voisin, ta vie peut et doit compter. Alléluia. Bien-aimé, il y a environ un mois, j'ai partagé avec vous un message qui consistait simplement, rappelez-vous, je vous expliquais que je voulais partager avec vous un témoignage, ou plutôt ce que le Seigneur, plusieurs enseignements que le Seigneur m'a donné, qui m'a enseigné au travers de mon parcours spirituel avec lui. Plusieurs choses qui m'ont aidé dans le parcours, dans le couloir de ma destinée, et que j'ai commencé à partager avec vous. Non pas que je sois une référence absolue en la matière, non pas que je sois arrivé ou parvenu à quelque chose, mais simplement, je crois sincèrement que les différentes choses que le Seigneur m'a enseignées au travers de ma vie chrétienne, je pense que ça peut être un encouragement pour quelqu'un, un motif d'édification, d'exhortation. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous partager quelques points que Dieu m'a enseignés et qui sont pour moi, qui sont à mon sens essentiels pour pouvoir mener correctement sa vie chrétienne, progresser correctement dans le couloir de sa destinée et atteindre le but que Dieu nous a fixé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Rappelez-vous, je fais juste un petit rappel, nous avons vu plusieurs choses. La première chose que nous avons vue, c'est que Dieu est réel. C'était le premier enseignement que Dieu m'a donné. Dieu est réel. Dieu est réel. Il existe vraiment. Même si nos yeux physiques ne peuvent le voir, il existe. Parce que tout ce que nous voyons, lorsque nous regardons la création nous prouve, la création nous montre que Dieu existe. C'était la première chose. La deuxième chose que nous avons vue, le deuxième enseignement, c'est que Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime tel que tu es et quel que soit ton passé. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui. Quelle que soit ta condition aujourd'hui, bien-aimé, sache que Dieu t'aime. Même si tu as été une des personnes les plus obscures du monde, Dieu t'aime. De toute façon, personne ici dans cette salle, personne sur Internet ne peut dire qu'il n'a pas eu une vie avec des zones d'ombre, des zones obscures. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'avant que nous connaissions Jésus-Christ, avant que nous ne le recevions comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous étions dans les ténèbres et que nous étions nous-mêmes ténèbres. Alléluia. Mais ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, c'est que malgré tout ce qu'on a pu faire, tout le mal qu'on a pu faire aux autres, tout le mal qu'on a pu faire à nos proches, à nos familles, à nos amis, à la société, malgré tout ce qu'on a pu faire, Dieu, au travers le sang de son fils Jésus, a effacé l'ardoise. Et il nous aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. Pour quelqu'un, c'est une évidence. Pour quelqu'un d'autre, tu as besoin d'entendre ça. Je te dis, Dieu t'aime. Ne laisse pas le poids de ton passé être un frein pour ton futur. Beaucoup trop de gens sont bloqués dans leur destinée, sont bloqués dans le couloir de leur destinée parce qu'ils laissent le poids du passé être un obstacle, une muraille, un frein pour leur progression et pour leur épanouissement. Bien-aimé, quelle que soit la noirceur de ton péché, Dieu a effacé l'ardoise. Dieu a effacé l'ardoise. Et Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Tu n'es peut-être pas parfait aujourd'hui, mais Dieu t'aime tel que tu es. Et il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser au niveau où tu es. Il veut te voir progresser. Il veut te voir grandir en stature. Il veut te voir grandir en connaissance, en expérience, en intimité avec lui. Si tu ne grandis pas, il y a des choses que tu ne pourras pas te confier. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le deuxième enseignement, c'était que Dieu nous aime tel que nous sommes, quel que soit notre passé. Et nous avons vu également, troisième chose, c'est que si, bien-aimé, si tu n'as pas soif de Dieu, si tu n'as pas la soif de Dieu, tu ne pourras pas grandir en lui. Tu ne pourras pas grandir en Christ. Parce que pour pouvoir grandir en Christ, il faut avoir la soif de lui. Il faut avoir la soif de sa présence. La soif de sa parole. Toutes les personnes que je connais qui réussissent avec Dieu ont au moins un point en commun, c'est que ce sont des amoureux de Dieu. Ce sont des assoiffés de Dieu, des passionnés de Dieu, des gens qui cherchent Dieu dans toute leur voie, dans tous les domaines, qui ne laissent pas un domaine en dehors de la volonté de Dieu. Chaque domaine de leur vie, ils cherchent à connaître quel est le but, quelle est la pensée, quel est le projet de Dieu. Des personnes qui ne gardent pas pour elles certains gouvernails, certaines reines de leur vie pour certains domaines et qui laissent le reste à Dieu. Ce sont des gens qui se confient entièrement en lui. Et pour cela, il faut avoir la soif. Et si tu n'as pas la soif, alors il faut que tu pries pour demander au Seigneur, Seigneur, mets en moi la soif de toi. Et ça, c'est une prière que beaucoup d'entre nous devraient faire chaque jour. Seigneur, mets en moi la soif de toi. Mets en moi la soif de rentrer plus en profondeur dans la connaissance de ta parole, dans une intimité avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quatrième chose que nous avons vue, c'est que nous devons servir Dieu en nous appuyant sur les capacités qu'il nous a données. Rappelez-vous, nous devons servir Dieu. Tu dois servir Dieu en t'appuyant sur les capacités que Dieu t'a données. Et je disais que nous devons servir Dieu dans l'Église et nous devons également le servir dans la société. Rappelez-vous, servir Dieu, ce n'est pas juste le faire à l'Église. Parce que à l'Église, c'est vrai, c'est important de servir Dieu. Et tu sers Dieu avec tes trois T. Rappelez-vous les trois T, le temps, les talents et les trésors. Amen. Il y a servir Dieu dans l'Église et il y a servir Dieu dans la société. Dans l'Église, comment je fais? Je le sers avec ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné quoi? Premièrement, il m'a donné du temps. Si j'ai pu voir la lumière de ce jour aujourd'hui, c'est que Dieu m'a rajouté du temps. Et ce temps-là, c'est une sorte de capacité. C'est quelque chose que j'ai avec lequel je sers Dieu. C'est le premier des trois T. Je sers Dieu avec mon temps. Je sers Dieu avec mes talents. Comme Betsaleel et Oliab. À leur époque, ils ont servi Dieu avec leurs talents. Ils ont servi le royaume, ils ont servi, on peut dire, même si la notion d'église n'existait pas encore au temps de Moïse, on peut dire aujourd'hui, on peut dire globalement qu'ils ont servi l'église de leur époque. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia! Dieu avait mis en eux des talents, des capacités, et ils les ont mises à profit pour faire avancer le royaume. Les capacités que Dieu leur avait données, ils les ont réunis et ils les ont employés, ils les ont déployés pour servir au tabernacle et à la tente d'assignation, pour la confection du tabernacle et la confection de la tente d'assignation. Et le problème, c'est que plusieurs parmi nous ne comprennent pas ça. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Dieu dit à Moïse, j'ai mis en Betsaleel et en Oliab et dans d'autres personnes, j'ai mis une capacité qui leur permet de faire toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de travaux, toutes sortes de choses. Et donc, Dieu dit à Moïse, va vers eux pour leur dire d'utiliser ces talents pour le bien du royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu t'a donné des talents et ces capacités Tu dois apprendre à les mettre au service du royaume. Betsaleel et Oholiab auraient pu dire, ils auraient pu dire, Moïse, tu sais, le tabernacle, la tente d'assignation, c'est bien, mais nous, on préfère être à l'accueil du tabernacle. À l'accueil, on préfère servir à l'accueil et puis à la sécurité du tabernacle. S'ils le faisaient, ils auraient servi Dieu, c'est vrai, mais ils n'auraient pas servi Dieu avec impact. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que pour servir Dieu avec impact, Dieu leur disait, moi je vous ai doté de certaines capacités, c'est pour que vous puissiez les mettre à profit pour les intérêts supérieurs du royaume. Il y a des gens ici dans cette salle, Dieu t'a donné des talents, des capacités qui sont rares dans l'église et dont on a besoin pour faire avancer le royaume. Mais toi, là où on a besoin de toi, toi tu dis non, moi ce département, ce ministère, moi ça ne m'intéresse pas trop, moi je vais servir à l'accueil ou je vais servir au protocole. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a donné à Betsaleel et à Oholiab des capacités, des dons, des talents, et ils les ont mis à profit pour servir Dieu avec impact dans leur temps. Alléluia! Ça ne veut pas dire que tu serviras toute ta vie dans le même ministère, dans le même département. Parce que tu peux le faire, il y a des saisons dans la vie. À un moment, il y a une saison où tu vas servir ici, il y a une saison où tu vas servir dans un autre département. Mais dans tous les cas, apprends à servir Dieu, apprenons à servir Dieu avec nos talents. Que quelqu'un dise amen. Et nous avons dit également que servir Dieu dans l'église, c'est servir Dieu avec nos trésors. Que quelqu'un dise trésor. Nos trésors. Nos trésors, c'est le fruit de notre travail. Nos trésors, c'est le fruit de nos investissements. Nos trésors, c'est le fruit de notre réflexion. Et tout ça, nous en prenons une partie pour la ramener à Dieu. Parce que c'est lui qui est le pourvoyeur. Ce que nous l'avons parce que Dieu l'a permis. C'est pas par ton intelligence. L'intelligence que tu as, tu n'as pas créé tout seul. C'est Dieu qui te l'a donné. Donc tu dois comprendre que ce que tu as te vient de Dieu. Tout ce que tu as te vient de Dieu. Et nous devons apprendre à servir Dieu avec nos trésors. La Bible dit dans Proverbes chapitre 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Nous devons apprendre à servir Dieu avec nos dîmes, avec nos offrandes. Nous devons les amener à la maison du trésor. Pourquoi? Pour faire avancer le règne de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. La dîme sert à faire fonctionner l'église locale. C'est ça le but de la dîme. Il faut lire. Malachie chapitre 3. Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Autrement dit, afin que l'église locale fonctionne. Parce qu'il y a différents frais. Il y a des choses qu'il faut payer. Quand on dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, c'est pour également pouvoir accueillir d'autres personnes. Parce que s'il n'y a pas suffisamment de nourriture, eh bien on ne peut pas accueillir les autres. Quand on parle de nourriture, on ne parle pas des agapés qu'on peut faire. On parle d'une nourriture qui est d'abord d'ordre spirituel. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le lieu par excellence où tu reçois de manière collective la parole de Dieu, c'est dans l'église locale. Alléluia. Mais nous devons le servir avec nos temps, avec notre temps, avec nos talents et avec nos trésors. Alléluia. Et aussi, avec nos offrandes, il y a les dîmes et il y a les offrandes. On fait les deux. Dis-moi amen. La dîme, c'est pour que l'église fonctionne. L'offrande, c'est pour faire passer l'église dans une autre dimension. Parce que l'offrande crée la multiplication, la percée. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous voulons aller dans une autre dimension. Ça ne se fera pas uniquement avec les dîmes. Ça se fera avec des offrandes sacrificielles, avec des offrandes de percée, avec des offrandes que nous donnons à Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons voir son royaume être étendu sur la terre. Je le fais et je continuerai à le faire toute ma vie. Nous devons également, nous avons dit, apprendre à servir le Seigneur dans la société. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel de la terre et la lumière du monde, ce n'est pas uniquement dans l'église. Le service de Dieu, ce n'est pas uniquement dans l'église. Il y a des choses que Dieu t'appelle à faire, mais dans la société. Pourquoi? Pour que, au travers de ta vie, les gens voient Dieu. Au travers de ta vie, les gens sont connectés à Dieu. Au travers de ta vie, la vie de Dieu est diffusée est répandu dans ton environnement, familial, social, professionnel, ou bien au niveau de ton université ou de l'endroit où tu étudies. Et la Bible dit, dans Proverbes chapitre 18, verset 16, que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les présents d'un homme, c'est-à-dire les capacités que Dieu donne à un homme, donne à une femme, si cette personne sait les discerner, sait les valoriser et sait les développer, ça va avoir pour conséquence de lui élargir ses voies et de lui donner accès auprès des grands. Que quelqu'un dise amen. Après, quelqu'un me dira, oui, mais pasteur, moi, les choses des grands, là, non, moi, je préfère être dans l'humilité, voilà, moi, je suis humble, je préfère être dans l'humilité, me faire tout petit, oui, mais mon ami, ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est refuser le plan de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu a dit, je ferai de vous la tête et non la queue. On te dit pas d'aller auprès des grands pour que tu sois vu et que tu te dises, ouais, c'est moi, je suis un grand. Non, c'est pas ça. Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Pourquoi ? Parce que la lumière du monde, on ne la cache pas. La lumière, il faut qu'elle soit visible. Et pour qu'elle soit visible, il faut qu'elle monte le plus haut possible. Alléluia ! Alors arrête de te minimiser, appuie-toi sur ce que Dieu t'a donné et puis crée-toi une brèche par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que tu accèdes auprès des grands. Parce que c'est lorsqu'on est en haut qu'on influence le plus facilement. Alléluia ! Et parmi les choses que Dieu nous a données, rappelez-vous, parmi les choses que Dieu nous a donné une intelligence. Et je répète ici, que tout le monde sur la terre est intelligent. Dis-moi amen. Tout le monde est intelligent, même ceux qui ont 0 sur 20 en maths. Tout le monde est intelligent. Pourquoi ? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu a donné quelque chose à chacun d'entre nous. Et j'expliquais la fois passée qu'il y a un chercheur américain qui s'est attaché à chercher à comprendre un peu quelles étaient les différentes formes d'intelligence que les hommes manifestaient sur la terre. Je ne sais pas si c'était un chrétien, je ne sais pas s'il était né de nouveau, mais ce que je sais, lorsque je vois le résultat de son travail, je suis sûr, je suis persuadé que Dieu lui a parlé. C'est tellement clair, c'est tellement évident. Et rappelez-vous une chose, Dieu ne parle pas uniquement aux croyants, Dieu ne parle pas uniquement aux chrétiens. Dieu peut également se révéler à ceux qui cherchent des solutions, à ceux qui creusent, à ceux qui cherchent. Quand quelqu'un met son cœur à l'ouvrage pour chercher, non pas avec forcément des motifs mauvais, mais quelqu'un qui cherche à trouver des solutions, Dieu lui permet de les trouver. Parce que celui qui cherche, trouve. Alléluia. Amen. Et nous avons donc parlé des 8 formes d'intelligence. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais simplement les lister parce que la fois passée, j'ai pris le temps d'expliquer chacune. La première chose, c'est l'intelligence verbale ou encore l'intelligence linguistique. La faculté de comprendre, d'assimiler la grammaire des langues étrangères facilement. Des gens qui sont capables d'apprendre des langues, en 3 mois, ils arrivent dans un pays, en 3 mois, ils parlent la langue du pays. Il y a des gens comme ça. C'est une forme d'intelligence. Même si tu as eu 2 sur 20 en maths, à chaque fois que tu as eu des épreuves de maths, mon ami, Dieu t'a donné une forme d'intelligence qui est peut-être tout autre. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, on a parlé de 8 formes d'intelligence, 8, mais ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Si tu as une, tu n'as pas l'autre. Non. Simplement, il y en a forcément une ou deux ou plusieurs qui sont prédominantes. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais ça ne veut pas dire que les autres, tu ne les as pas. Alléluia. Est-ce que ça va ? Tout le monde, de toute manière, tout le monde a une forme d'intelligence verbale et linguistique. Sinon, tu ne parlerais pas. Alléluia. Mais ton voisin qui parle 8 langues, n'a peut-être pas, Dieu ne lui a peut-être pas donné les mêmes atouts que toi par rapport à ce niveau-là. Mais il t'en a donné d'autres. Est-ce que quelqu'un me suit ? Nous avons également parlé de l'intelligence logique, ou encore l'intelligence mathématique, ou encore l'intelligence académique. C'est la forme d'intelligence qui est la plus prisée, qui est la plus valorisée ici sur Terre. La forme d'intelligence qui permet à quelqu'un de réussir brillamment ses études. Chacun d'entre nous a été à l'école, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de cette personne, tu connais son nom, tu te rappelles encore de son nom, tellement il était fort à l'école. Tu te rappelles? Hein? Tu te rappelles? Toujours 20 sur 20, 19 sur 20. Quand il avait 19 et demi, il pleurait. Tu te rappelles pas? C'était peut-être toi d'ailleurs. Ça, c'est la forme d'intelligence. L'intelligence académique, c'est celle qui est la plus prisée. Mais ce n'est pas la seule qui existe. Et c'est dramatique. C'est dramatique de voir des parents qui fustigent leurs enfants parce que leurs enfants ne réussissent pas brillamment à l'école. La Bible ne dit pas, que c'est l'école qui élargira ta voix et qui te donnera accès auprès des grands. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je ne suis pas en train de dire que l'école n'est pas importante. L'école, c'est important, que quelqu'un dise amen. C'est important. Il faut aller à l'école, c'est important. Mais ce n'est pas ça qui est la clé pour que tu portes du fruit dans la société pour Dieu. Ce n'est pas ça la clé. La clé, la Bible dit, c'est les présents d'un homme lui élargissent la voie. C'est-à-dire les présents, les capacités, les talents, les facilités que Dieu a donné à un homme, à une femme, s'il l'utilise, c'est ça qui va lui élargir la voie. D'ailleurs, il y a des gens qui ont fait de brillantes études, qui ont été toujours premiers de la classe, toujours premiers de la classe. Aujourd'hui, ils sont au chômage. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément épanouis. Dis à ton voisin, ce n'est pas ça la clé. Dis-lui, la clé, c'est ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Chacun de nous est intelligent. L'intelligence verbale, l'intelligence académique, et vous avez également l'intelligence visuelle ou encore l'intelligence spatiale. On en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. L'intelligence musicale, l'intelligence rythmique, l'intelligence corporelle, celle dont la majorité des sportifs de haut niveau sont dotés. Rappelez-vous ce que je vous disais. Il y a des gens, oh, ça me fait rire. Il y a des gens qui fustigent certains athlètes, certains sportifs en disant, mais il ne sait pas aligner deux mots correctement dans une phrase. Il est bête, il n'est pas intelligent, il ne comprend rien. Mais il n'est pas bête, il n'est pas intelligent. Il est intelligent. Il n'est pas bête. Parce que celui qui a l'intelligence corporelle, et qui sait l'utiliser. Je prenais un exemple la dernière fois. Un joueur de football. Il y en a notamment un qui est fustigé par les médias souvent. L'équipe de France. Quand le gardien dégage la balle, il sait se positionner sur le terrain et positionner son corps pour recevoir la balle. Il sait où la balle va atterrir. Il le sait. Toi, pendant ce temps-là, tu es en train de faire tes calculs. Bon, la parabole, selon la force du vent et selon la puissance de la frappe, la balle devrait atterrir à peu près dans cette... Pendant que tu fais ton calcul, lui, il a déjà marqué un but. Et puis, on l'a payé 1 million d'euros pour le but. Et puis, on dit qu'il est bête. Il est intelligent. Sauf qu'il a une forme d'intelligence prépondérante différente. Alléluia. En tant que parents, ne commettons pas l'erreur terrible de comparer nos enfants par rapport à leur réussite à l'école. Si vous faites ça, vous êtes en train de les détruire. Parce que l'aîné, Dieu l'a doté d'une capacité, d'une intelligence académique très 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 poussée. Il réussit à l'école. Tout ce qu'il fait à l'école, il a toujours des très bonnes notes. Mais le cadet ou la cadette, c'est pas son cas. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de fustiger la petite ou le petit. En train de dire, mais pourquoi tu ne fais pas comme ton frère? Tu as vu comment ta soeur, elle fait, c'est un modèle. Toi vraiment, tu es le cancre de la famille. Ne dis jamais ça à un enfant. Tu es le cancre de la famille. Nous tous, on a toujours eu des bonnes notes. Toi, tu fais honte. Toujours des cinq. Je vais changer ton nom de famille pour pas qu'on... Quand tu fais ça, tu fais du mal aux petits. Ce que tu dois comprendre, ce que tu dois faire, c'est chercher à discerner ce que Dieu lui a donné comme forme d'intelligence. Parce que lui, c'est peut-être pas comme ça qu'il apprend les choses. il n'apprend pas les choses devant un grand tableau, assis comme ça, statique, dans la classe pendant toute la journée, et puis on met des choses au tableau. C'est peut-être pas comme ça qu'il apprend. Mais il n'est pas bête. Tu dois chercher à discerner qu'est-ce que Dieu lui a donné. Ne le compare pas à son grand frère. Ce sont tes enfants, c'est vrai, c'est le point commun. Mais au niveau des intelligences, au niveau des choses que Dieu leur a données, ce n'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément la même chose. Et donc tu cherches à discerner ce que Dieu lui a donné, et ensuite quand tu discernes, tu l'aides à développer ça. Parce que rappelle-toi, ce sont les présents d'un homme qui lui élargissent la voie et qui lui donnent accès auprès des grands. Ce n'est pas avoir 20 sur 20 en maths à l'école, ce n'est pas ça, c'est pas ça. S'il a ça, c'est très bien, gloire à Dieu. Mais s'il n'a pas ça, il a autre chose qu'il faut développer. Et il faut l'encourager pour le propulser comme une flèche vers sa destinée en Christ. Alléluia! Sixième forme d'intelligence, c'est l'intelligence interpersonnelle. La faculté que certaines personnes ont à s'allier d'amitié, en tout cas peut-être pas d'amitié, mais à être en bonne relation avec des personnes qui viennent de voir pour la première fois. Il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous discutez 5 minutes avec eux, 10 minutes avec eux, ils vous mettent à l'aise et vous avez l'impression de les connaître depuis 10 ans. Et vous avez plaisir à être avec eux. Ça, l'intelligence interpersonnelle. On ne leur a pas appris ça quelque part. Il n'y a pas un manuel d'intelligence interpersonnelle. Non, ils arrivent, mais c'est un don de Dieu, une capacité de Dieu. Quand ils arrivent quelque part, ils mettent tout le monde à l'aise. Tout le monde à l'aise. Tout le monde est à l'aise. À l'école du dimanche, chaque dimanche, je suis sûr qu'il y a une scène qui se passe là-bas. Quand on amène le petit untel, il vient, on l'amène devant la monitrice ou le moniteur, et le petit demande, « Tata, tonton, est-ce que Junior est là ?»« Non, Junior n'est pas encore là. » Oh. Un autre arrive, on l'amène à l'école du dimanche, il arrive, « Tata, tonton, est-ce que Junior est arrivé ?»« Non, 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 je ne l'ai pas vu. » Oh. Un troisième arrive, « Est-ce que Junior est arrivé ?»« Non, il n'est pas encore là. » Oh. Et puis quelques minutes après, le papa et la maman de Junior, avant de venir ici au culte, ils amènent Junior à l'école du dimanche. Et quand Junior arrive, tout le monde est là, « Junior, 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 Junior !» Pourquoi ? Est-ce que Junior est plus intelligent qu'eux ou plus ? Non. Mais Junior a cette capacité-là à mettre tout le monde à l'aise. Mais c'est un don. C'est un don. Et si tu sais l'utiliser, si tu sais le développer, ça va élargir tes voies, ça va changer ton horizon, mon frère, ma soeur. Mais toi, le problème, c'est que tu laisses ça de côté, tu enfouis ça, et puis tu veux t'attacher à essayer d'avoir 20 en maths, 20 en maths. Mais tu as essayé, tu n'arrives pas. Laisse tomber. Dieu t'a donné autre chose. Septième forme d'intelligence, c'est l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle. La capacité à bien se connaître soi-même, à savoir s'auto-évaluer, à savoir se sonder, à savoir reconnaître ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est la septième. La huitième, rappelez-vous, c'est l'intelligence de la nature, encore l'intelligence naturaliste. Cette faculté que Dieu a donnée à certaines personnes de comprendre les langages de la nature. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent avec les lions, ils comprennent les lions. Mais ça veut dire qu'ils savent interpréter les signes naturels. Est-ce que quelqu'un me suit ? La plupart des bons guides en haute montagne, ils ont ça. La plupart des grands navigateurs, ils ont ça également. Il y a même des gens qui arrivent à guérir, pas juste, en tout cas au moins à guérir ou à soigner, des maux, des maladies, pas avec des produits pharmaceutiques, mais avec la connaissance de certaines herbes, de certaines plantes. Il y a des gens qui font ça. Alléluia, c'est vrai, il y a des gens qui le font bien. Mais il y a aussi des charlatans, mais il y a des gens qui le font bien. Ils ont cette capacité-là à discerner les choses. Toi, tu veux faire la même chose, tu prends une plante quelconque et puis ça te donne mal au ventre. Mais eux, ils savent. Est-ce que quelqu'un me suit ? Bien-aimé, j'essaie simplement de te dire, avant de continuer dans mon message, simplement de te dire que tu t'es peut-être déjà trop limité toi-même. Parce que tu es parti sur les mauvaises bases. Tu t'es peut-être dit, je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas assez d'argent. Parce que je n'ai pas suffisamment d'éducation. Parce que je n'ai pas assez d'expérience. Parce que je n'ai pas les bonnes relations stratégiques qu'il faut. Parce que je n'ai pas les bons pistons qu'il faut. Mais bien aimé, la Bible te dit que ce n'est pas l'argent, ni l'éducation, ni l'expérience, ni les relations de qui tu connais, ni les pistons qui font la différence. La différence, c'est de valoriser ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et si tu fais ça, tu déploies ça dans la société, la Bible dit que tu vas monter et tu pourras être vraiment la lumière du monde et le sel de la terre. N'enfouis pas ce que Dieu a mis en toi. Que quelqu'un dise amen. Et juste une pensée, j'avais juste une pensée. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des enfants, de l'éducation des enfants. J'avais juste une pensée. En cette période de rentrée des classes, bien-aimé, il y a une chose essentielle que tous les parents devraient faire. À la rentrée des classes, tu dois prendre le temps de prier avec et pour tes enfants. Je fais juste une parenthèse. Mais de manière particulière, je sais que tu pries chaque jour avant de les coucher, que tu pries, voilà. Mais je ne parle pas de ça. Je parle d'une prière particulière. Lorsque la rentrée des classes est un événement important, quand vous allez préparer vos enfants pour qu'ils partent à l'école, ne leur faites pas juste un gros bisou, voilà, ça va aller. Allez, bonne journée mon fiston. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu dois les asseoir, les faire asseoir. Le matin avant de partir, tu fais asseoir tous tes enfants avant qu'ils partent. Tu les fais tous asseoir. Tu te mets au milieu d'eux et tu commences à prier pour chacun d'entre eux. Tu commences à décréter que l'année scolaire qui commence va être une année pour eux de succès et de réussite. Et tu pries comme ça. Tu le fais. Tu laisses pas, tu les envoies pas au petit bonheur, la chance, comme on dit. Peut-être que vous allez réussir, vous réussissez, gloire à Dieu, si ça ne passe pas, bon, c'est pas grave. Non. Parce que même si certains ne sont pas dotés d'une intelligence académique très poussée, il faut quand même qu'ils puissent réussir le minimum, qu'ils puissent avancer quand même au minimum. Est-ce que quelqu'un me suit? On discerne ce qu'ils ont, on le développe, mais au niveau de tout ce qui concerne l'école, on essaie de les accompagner pour qu'ils passent au moins au minimum, même s'ils n'ont pas à chaque fois des superbes notes. Alléluia! Et donc, avant de les envoyer, avant qu'ils partent, il faut prier pour eux. Rappelez-vous toujours que dans la vie du Fils, quand vous regardez la vie de Jésus, durant son ministère, il y a des moments stratégiques où la Bible dit que la voix du Père s'est fait entendre pour le soutenir. Le jour où il a commencé son ministère public, la Bible dit que lorsqu'il s'est fait baptiser, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, la voix du Père s'est fait entendre. Parce que c'était un moment important. Lorsqu'il avait la passation de pouvoir entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, au moment où Élie et Moïse, Pierre voit Élie et Moïse qui viennent sur la montagne, et Pierre cherche à faire une tente pour Élie, pour Moïse, et puis pour le Seigneur, la Bible dit que la voix du Père s'est faite entendre. Pour dire à Pierre, Pierre, calme-toi, tu es en train de tout confondre. Je suis en train de faire une passation de pouvoir. Et c'est un moment important pour la vie du Fils. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire, avant je parlais par la bouche des prophètes, maintenant j'ai décidé de parler par la bouche de mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est un moment important, la voix du Père s'est faite entendre. C'est une voix de soutien parental, une prière de bénédiction parentale qui vient soutenir la vie du Fils. Et lorsqu'il était à Gethsémané, c'était pas évident. Il commençait à se dire, ah Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner, à un moment donné, il a dit, cela dit, que ta volonté soit faite. Et la Bible dit que la voix du Père encore s'est faite entendre. C'était un moment crucial. À chaque instant crucial de la vie de vos enfants, vous devez prendre le temps de prier pour eux. C'est valable lorsqu'ils commencent une année scolaire, et c'est également valable, beaucoup ne le font pas, c'est également valable lorsqu'ils terminent leur cursus scolaire. Lorsque vos enfants ils ont maintenant terminé, ils ont fini leur cursus scolaire, maintenant ils vont rentrer dans la vie professionnelle. C'est un moment important. Même si vos enfants habitent dans un pays étranger, vous devez vous déplacer là-bas. Quand ils ont terminé, vous devez vous déplacer là-bas, vous arrivez dans leur maison, vous imposez les mains et vous commencez à décréter que leur vie professionnelle, ils ne vont pas être au chômage, ils vont pouvoir travailler et déployer leurs talents, ils vont pouvoir être des sources de bénédiction pour la société. Alléluia! Donc, avant de n'envoyer pas simplement vos enfants le matin à l'école en disant « Vas-y, tu connais la route. » Non, tu pries, tu imposes les mains au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour mes enfants. Je te bénis pour le plan parfait que tu as prévu pour eux. Seigneur, au nom de Jésus, je décrète que cette année scolaire sera une année de réussite, une année de succès. Je proclame que toute forme d'armes forgée contre eux n'a point d'effet sur leur vie. Je déracine, je détruis toute forme de racisme à leur encontre, toute forme de xénophobie à leur encontre. S'il y avait des professeurs qui voulaient les saquer tout simplement pour des motifs de racisme, de xénophobie, ce que c'est que ce professeur soit écarté au nom puissant de Jésus. Je décrète que durant cette année scolaire, ils ne seront pas victimes de la drogue, ils ne seront pas victimes de la cigarette. Je repousse toutes les mauvaises relations que le diable voudrait envoyer dans leur vie. Je détruis toutes ces choses et je proclame le succès dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je détruis toute pensée. Si quelqu'un voulait avoir une pensée d'attouchement ou de blessure émotionnelle, physique, corporelle, je détruis ça au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veille sur eux, c'est vrai. Mais en tant que parent, tu dois soutenir ça par une parole de bénédiction. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Dis à ton voisin, fais-le. Cinquième enseignement que j'ai appris durant mon parcours avec le Seigneur, c'est que la meilleure manière de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il t'a donné la vie, il t'a racheté, tout ce qu'il fait dans ta vie. La meilleure manière de remercier Dieu, c'est de concrétiser, c'est de réaliser le plan ou encore le rêve qu'il a formé pour ta vie. C'est la meilleure manière, c'est ce que j'ai compris. La meilleure manière, c'est pas de prier, jeûner tous les jours. Ça, c'est important, mais c'est pas ça la meilleure manière de remercier Dieu. Venir à l'église, répondre à cette sainte invitation tous les dimanches, c'est important, mais c'est pas ça la meilleure manière de remercier Dieu. La meilleure manière de remercier Dieu, c'est de porter du fruit là où il attend que tu portes du fruit. C'est de concrétiser les projets que Dieu a formés sur ta vie. Jean chapitre 15, verset 8, Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La meilleure manière, bien aimé, de remercier Dieu, c'est de porter du fruit dans le couloir de ta destinée, dans tous les domaines dans lesquels il a prévu quelque chose pour toi. Et chaque atout que Dieu t'a donné sert à quelque chose. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Toutes les aptitudes, les capacités que tu as, Dieu ne te les a pas données en vain. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le couloir de ta destinée, tu en auras besoin pour avancer. Alléluia. Et toujours, dans ce même thème, j'ai compris que l'on ne choisit pas sa destinée. On ne choisit pas sa destinée. J'ai compris qu'on ne choisit pas sa destinée. Quand je parle de destinée, je parle de la destinée en Christ. On ne choisit pas sa destinée en Christ. Tu peux choisir une destinée, c'est vrai. Mais tu ne peux pas choisir ta destinée en Christ. Ta destinée en Christ, c'est Dieu qui l'a déjà préparée, qui l'a déjà formée, qui l'a déjà formulée. Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La Bible dit plus loin que Dieu a préparé d'avance pour nous des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Tu ne peux pas choisir ta destinée en Christ. Tu ne peux pas. Ta destinée en Christ, c'est Dieu qui l'a établie. Soit tu l'accomplis, soit tu en accomplis une autre. Et si tu en accomplis une autre, ça veut dire que tu manques le but que Dieu avait prévu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, on ne choisit pas sa destinée en Christ. Ce n'est pas le produit fabriqué, ce n'est pas le produit manufacturé qui choisit de lui-même ce à quoi il doit servir. Le créateur du produit, il sait pourquoi il crée le produit. Et il s'attend à ce que le produit fonctionne dans le contexte dans lequel il doit fonctionner et réalise, réponde aux solutions, aux problèmes qu'il doit solutionner. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ce n'est pas la voiture qui choisit sa destinée. C'est le fabricant. C'est le créateur de la voiture. Le créateur de la voiture, quand il crée la voiture, Il a un but, il a une destinée pour cette voiture. Il faut que cette voiture puisse transporter d'un point A à un point B des personnes en toute sécurité et dans un confort particulier. C'est ça le but. C'est ça la destinée de la voiture. Maintenant, si demain la voiture elle-même décide, non, moi, je vais faire une autre destinée. Moi, je veux transporter des gens, non pas sur les routes, mais moi, je veux transporter des gens dans l'eau. Et alors que tu conduis au bord de la mer, la voiture, elle prend sa destinée maintenant en main, et puis elle tourne, et puis elle t'envoie dans la mer. Qu'est-ce qui va se passer? Des problèmes. Ne change pas la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu risques de tuer des gens comme la voiture qui envoie les gens dans l'eau. Tu risques de briser des vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Sixième chose, sixième enseignement qui m'a été enseigné par le Seigneur au travers de mon parcours que j'aimerais partager avec vous, c'est que de base, bien-aimé, tu auras des obstacles à surmonter et tu dois éviter d'en rajouter d'autres. Que quelqu'un dise amen. Tu auras des obstacles à surmonter. C'est un fait. Tu peux en être sûr et certain. Si tu n'en as pas encore eu, vis encore et tu verras. Vis encore. Ce n'est qu'une question de timing, c'est tout. Et j'ai compris qu'il y a quatre sources d'obstacles. Quatre. Deux que tu ne peux pas éviter et deux que tu peux éviter. Alors ceux que tu ne peux pas éviter, de toute façon, tu devras les affronter. Mais ne t'en rajoute pas d'autres. Que quelqu'un dise avec moi quatre sources. La première source des obstacles, des blocages et des difficultés, la première source, c'est l'adversité. C'est l'adversité. L'adversité, elle vient d'où? Elle vient du diable. Elle vient du diable essentiellement et principalement. Elle vient du diable. Parce que l'adversité, ça met en relief l'adversaire. C'est l'adversaire qui fait l'adversité. Et la Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, que nous avons un adversaire, n'est-ce pas? Et cet adversaire, c'est le diable. L'adversité, ce n'est pas Dieu qui la donne. C'est le diable qui provoque l'adversité. Et le but de l'adversité, qui est donc une des quatre sources de blocage, d'obstacles et de difficultés, le but de l'adversité, c'est de te stopper. L'adversité que le diable et les puissances des ténèbres mettent en place autour de ta vie, c'est pour te stopper, c'est pour te ralentir, c'est pour te limiter, c'est pour te blesser, si ce n'est pour te tuer. Ça, c'est l'adversité. Et tu seras soumis à l'adversité. Dis-moi amen. Tu ne peux pas te soustraire à l'adversité. Dis à ton voisin, tu auras de l'adversité. C'est une des quatre sources. Il faut le savoir, il y aura de l'adversité. Il y a quelque temps, je crois l'avoir exprimé d'une manière différente, ici, en vous montrant que, au-delà de tous les royaumes qu'il peut y avoir, de tous les états et de tous les royaumes qu'il peut y avoir sur la terre, au niveau physique, dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Alléluia! Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Amen. Il n'y a que deux royaumes. Nous étions d'abord, à cause de la désobéissance d'Adam, nous étions dans le royaume des ténèbres. La Bible dit que nous étions nous-mêmes ténèbres. Et à un moment donné, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes, et la Bible dit que Dieu nous a fait passer du royaume des ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Donc, vous avez deux points. Quand on relit deux points par un trait. Que quelqu'un dise amen. Le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Nous avons reçu Jésus-Christ. Et nous sommes en train de progresser dans le couloir de notre destinée, en train d'expérimenter davantage le royaume de Dieu. Nous sommes dans une direction ténèbres vers la lumière. Amen. À l'inverse, l'adversaire, le diable, et un tiers des anges qui sont partis avec lui, ils étaient d'abord dans le royaume des cieux, oui ou non? C'est ce que la Bible dit. Alléluia, après Dieu les a chassés. Donc eux, ils étaient dans le royaume des cieux, Et à un moment donné, non, on les a chassés et ils sont en train d'aller dans... Parce que leur destination, c'est le lac de feu. Alléluia. Donc, ils font chemin inverse. Toi, tu quittes les ténèbres et tu progresses dans ta destinée. Eux, ils ont quitté le ciel et ils progressent vers les ténèbres, vers le lac de feu. Comme il y a un chemin, mon ami, à un moment donné, tu auras de l'adversité. Tu as de l'adversité ? Parce que à un moment donné, tu vas le rencontrer. C'est obligatoire. Dis à ton voisin, c'est obligatoire. C'est obligatoire. À un moment donné, puisqu'il y a un chemin, et puis eux, ils font ça, toi, tu fais ça. À un moment donné, vous allez vous confronter. Sache qu'il y aura de l'adversité. Et s'il n'y a pas d'adversité, mon ami, c'est bizarre. Parce que s'il n'y a pas d'adversité, c'est-à-dire que toi et lui, vous ne vous rencontrez pas, donc vous êtes dans la même voie. Est-ce que quelqu'un me suit ? Soit c'est toi qui suis le diable, ou soit c'est lui qui te pousse. Dis à ton voisin, il faut de l'adversité. Alléluia. La deuxième source d'obstacles, de blocages et de difficultés, j'ai compris que ce sont les épreuves. Parce qu'il y a une différence entre l'adversité et les épreuves. L'adversité, elle vient du diable, et c'est pour te stopper, pour te ralentir, pour te limiter, pour te blesser. Les épreuves, elles viennent de Dieu. Et tu auras des épreuves. Elles viennent de Dieu, mais elles ne viennent pas pour te faire du mal. Elles ne viennent pas pour te faire du mal. Elles viennent de Dieu lui-même. Mais le but des épreuves, c'est de nous enseigner. C'est de nous faire grandir. C'est de sonder les réelles intentions de nos cœurs. C'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 8 au verset 2. La Bible dit, Dieu dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi ? Il donne l'explication. Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia ! C'est ça le but des épreuves ? Et au verset 16, il dit, la Bible dit que l'Éternel qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Le but des épreuves, les épreuves ce sont des obstacles, ce sont des difficultés, ce sont des challenges, alléluia. Mais ça, elles viennent de Dieu, elles ne viennent pas du diable. Et le but, c'est d'éprouver ta foi, d'éprouver les aspirations de ton cœur dans le but derrière de te faire du bien. Le but, c'est de te faire grandir. Le but, c'est de façonner ton caractère afin qu'il soit semblable au caractère de Christ. C'est ça le but des épreuves. Et laissez-moi vous dire une chose. Plus vous recevez d'enseignements, plus vous recevez de Dieu, et plus vous aurez des preuves. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu reçois quelque chose, que tu reçois une connaissance, à chaque fois, il y a toujours un moment où on doit valider la connaissance. C'est pour ça que dans le monde scolaire, les examens, on appelle ça les épreuves. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te faire du bien. C'est pour t'obliger à te dimensionner correctement. Tu ne veux pas changer ton caractère. Tu ne veux pas apprendre la véritable humilité. Eh bien, Dieu va te mettre une épreuve. Pourquoi ? Pour t'obliger à changer ton caractère. Parce que la grâce qu'il y a avec les épreuves, c'est que même si pendant toute l'année, tu n'as pas voulu réviser, à la fin de l'année, il y a une épreuve. Et tu seras obligé de réviser. Obligé de t'ajuster. Et c'est ce que Dieu fait au travers des épreuves. Alléluia. Troisième source d'obstacles. Les deux premières, j'ai dit, on ne peut pas y échapper. L'adversité, les épreuves, on ne peut pas y échapper. C'est pour tout le monde. Mais par contre, les deux autres, tu n'es pas obligé de te les infliger. Parce que ce sont encore d'autres obstacles, d'autres challenges qui viennent s'ajouter. Troisième source, c'est l'ignorance. L'ignorance, la Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt, faute de connaissance. L'ignorance. L'ignorance, le mot ténèbres, c'est le mot ignorance, c'est la même chose. Et il y a trois formes d'ignorance. Quand je parle d'ignorance ici, je parle de l'ignorance sous ces trois formes. Trois formes. La première forme, c'est quoi ? C'est l'ignorance en tant que manque de connaissance. Donc c'est l'ignorance au sens propre. L'ignorance en tant que manque de connaissance. Il y a des choses pour lesquelles tu as payé un grand prix. Pourquoi ? Parce que tu ne savais pas les faire. Parce que tu ne connaissais pas, oui ou non ? Oui ou non ? Alléluia ! Mais si tu avais appris, si tu les connaissais, tu n'aurais pas tant souffert, tu n'aurais pas payé un prix aussi élevé. Ça, c'est la première forme d'ignorance. La deuxième forme d'ignorance, c'est l'ignorance en tant que manque d'expérience. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va ou pas? L'ignorance en tant que manque d'expérience, c'est-à-dire le manque de conseils et le manque de conseillers. Il y a des gens, tu souffres ou tu es passé par des obstacles, tu as dû affronter des blocages, des difficultés, des obstacles. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu demander conseil aux autres. Tu t'es cru tout puissant. Alors que la Bible dit dans Proverbes chapitre 15, verset 22, que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Mais toi, le conseil ne t'aime pas. Quand te conseille, tu penses qu'on te fait un reproche. C'est une forme d'ignorance pour laquelle tu risques d'avoir beaucoup de blocages. Dis à ton voisin, change. Mais réponds-lui, dis-lui toi aussi. La troisième forme d'ignorance, c'est l'ignorance en tant que manque de révélation et manque de direction divine. Non pas que Dieu ne veuille pas te donner de direction, non pas que Dieu ne veuille pas t'orienter, mais cette forme d'ignorance vient parce que tu n'entends pas Dieu, parce que tu ne cherches pas à payer le prix pour entendre Dieu. Le fait de ne pas entendre Dieu, ça crée une forme d'ignorance. Alléluia! Parce que c'est quand tu entends Dieu que tu as de la lumière qui éclaire ton sentier. Quand tu ne l'entends pas, c'est une forme d'ignorance. Et c'est la raison pour laquelle il faut demander au Seigneur de nous enseigner, de nous montrer les choses cachées, celles que nous ne connaissons pas. Et il a dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées, celles que tu ne connais pas, et qui sont pourtant utiles pour ta destinée. Ça, c'est la troisième forme d'ignorance. Vous pouvez donc avoir une ignorance par simple manque de connaissance, une forme d'ignorance parce que vous refusez le conseil, et une forme d'ignorance parce que simplement vous n'avez pas cherché, vous n'avez pas su entendre Dieu alors qu'il voulait vous parler. Alléluia. Septième enseignement que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, c'est que j'ai compris que je devais avancer dans la vie par la foi sans me poser trop de questions. Sans me poser trop de questions. Bien-aimés, tu dois avancer par la foi sans te poser trop de questions. Le problème, c'est que tu te poses trop de questions. Le problème, c'est que cela te limite. Tu t'interroges par avance sur des choses alors que tu ne devrais pas le faire. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 10, au verset 19, Jésus a dit, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Et il va plus loin encore, il explique encore davantage en Marc chapitre 13, au verset 11. Jésus dit, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance. » Ne vous inquiétez pas d'avance. Mais le problème, c'est que tu t'inquiètes d'avance. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Ce que j'essaie de dire simplement, ce que j'ai compris, c'est que j'ai compris que dans la vie, pour pouvoir réussir dans le couloir de ta destinée, accomplir les choses que Dieu a prévues pour toi, c'est que tu dois avancer par la foi sans te poser trop de questions. Le problème, c'est que Dieu t'a parlé, tu sais. À plusieurs égards, tu sais quels sont les domaines dans lesquels Dieu attend de toi du fruit. Tu le sais, mais le problème, c'est que les années passent et que tu ne t'es pas encore mis en mouvement pour les accomplir. Alors il est vrai qu'il y a des périodes qui ne sont pas favorables. Parce qu'il y a le temps kairos. Alléluia. Vous vous rappelez, non? Il y a des périodes qui sont favorables et il y a des périodes qui ne sont moins favorables. Dans les périodes moins favorables, ce n'est pas la peine d'aller à la guerre. On va te liquider tout de suite. Ah oui, c'est pas parce que Dieu est avec toi, quand il y a une période qui n'est pas favorable, David savait qu'il ne fallait pas aller. Hein. Ah oui, il savait que Dieu était avec lui, dans l'absolu, mais il y avait des moments où la période n'était pas, c'est pas favorable, c'est pas la peine d'aller. C'est pour ça qu'il consultait, il disait, est-ce que j'irai? Est-ce que je vaincrai? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais maintenant, quand la période est favorable, le problème c'est quoi? C'est que toi tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. Oui, mais je ne sais pas, je ne suis pas encore formé à ça. C'est vrai, Seigneur, je dois le faire, mais je ne maîtrise pas encore ceci. C'est vrai, je ne maîtrise pas encore cela, mais il faut d'abord que je fasse ceci, que je règle d'abord ça. Mais Dieu te dit, avance par la foi. Ce dont tu auras besoin, je te le donnerai au moment voulu. Au moment voulu. Mais le problème de ton voisin, parce que je sais que toi ça va. Mais le problème de ton voisin, c'est que ton voisin attend d'abord pour avancer que tous les feux soient verts sur son parcours. Ne fais pas ça. Tous les feux, il veut que tous les feux soient verts. Imagine-toi, pour venir à l'église, tu viens à l'église en voiture et de la maison jusqu'à ici, tu attends que tous les feux soient verts avant de démarrer ton moteur. Mais c'est de la folie. Dis à ton voisin, ça n'arrivera jamais. Tous les feux verts, dis-lui, ça n'arrivera jamais. Il y a un seul feu que tu dois prendre en considération. C'est le premier. C'est le feu du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit, feu vert, vas-y. Même si toi, d'ailleurs, tu vois que c'est rouge. Tu vois que c'est rouge parce que tu n'as pas la compétence. Tu n'as pas l'expérience. Il te dit, vas-y. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas ce que je dirais. Je ne sais pas. Vas-y. Ce dont tu auras besoin te sera donné au moment où tu en auras besoin. Alléluia. J'ai compris que si je veux réussir ma vie, c'est-à-dire accomplir les choses que Dieu a prévues pour moi, j'ai compris que je devais laisser le Seigneur imposer dans ma vie sa volonté. Jésus a dit dans Luc chapitre 22, au verset 42, alors qu'il était à Gethsémané, il devait aller à la croix, il savait que c'était la fin de son ministère terrestre. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Et quand il dit ça, ce n'était pas une petite prière à voix basse. Quand vous lisez la Bible, il y a un point d'exclamation. Jésus criait au Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Et puis il se reprend et puis il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Si tu veux réussir avec Dieu, il faut que tu le laisses faire les choses, conduire les choses. Et que tu te laisses conduire simplement au gré de sa volonté. Alléluia. J'ai appris à faire ce que je devais et non pas seulement ce que je voulais. Beaucoup de gens font ce qu'ils veulent. J'ai appris que si tu veux réussir avec le Seigneur, si tu veux accomplir ta destinée en Christ, il faut que tu apprennes à faire non pas seulement ce que tu veux, mais ce que tu dois d'abord. Si maintenant ce que tu dois faire correspond à ce que tu veux faire, ben gloire à Dieu. Mais si ce que tu dois faire ne correspond pas à ce que tu veux faire ou ce que tu aimes faire, eh ben gloire à Dieu quand même aussi. Alléluia. Parce que si tu fais ce que tu dois, tu es en train d'accomplir ta volonté. Ne sois pas comme un enfant qui fait uniquement ce qu'il veut et non pas ce qu'il doit faire. Si je prends mon cas personnel, est-ce que j'ai voulu être pasteur? Non. Je n'ai jamais voulu être pasteur. J'ai jamais voulu ça. Jamais. Moi, je suis bien au fond, en train d'être enseigné. Moi, j'aime ça. J'ai jamais voulu être pasteur. Alors, est-ce que j'ai voulu être pasteur? Non. Je n'ai pas voulu ça. Mais par contre, je sentais au-dedans de moi que j'allais le devenir un jour. Alléluia. Est-ce que je voulais partir en Belgique et y installer toute ma famille? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Est-ce que je m'épanouis dans ma fonction pastorale? Oui, je m'épanouis. Et bien plus que ce que je pouvais imaginer. Lorsque tu laisses Dieu te conduire dans les choses qu'il a prévues pour toi, même si au départ ça te semble quelque chose de trop grand, de trop compliqué, quand tu te laisses conduire, là où tes forces se limitent, Dieu prend le relais. Et quand tu te laisses conduire, tu découvres des niveaux d'épanouissement que tu n'avais jamais soupçonné. Dis à ton voisin, laisse Dieu te conduire. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile? La réponse est claire, non. Ah non, là, ce n'est pas simple. Loin de là. Loin de là. Ce n'est absolument pas évident. Mais avec Dieu, tout est possible. Ce n'est absolument pas évident. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. À chaque fois que je dois prendre le micro, à chaque fois que je dois m'adresser pour parler de la part de Dieu, j'ai toujours ce sentiment de petitesse où je me dis, Seigneur, aide-moi. Ne me laisse pas parler selon la chair, mais fais-moi parler selon ta pensée. Afin que ce que tu veux communiquer à ton peuple, je puisse en être un canal, je puisse être un canal qui n'altère en rien la parole que tu veux leur donner. Et je me dis, Seigneur, ne me laisse pas parler de moi-même. Parce que ces personnes, pour beaucoup, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres. Ils ont préparé leurs enfants, ils se sont levés tôt, certains ont fait des correspondances multiples pour venir là. Et ça me rend humble. Et j'ai compris qu'il n'y a pas d'acquis. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce qu'un jour, tu as donné un bon message qui a délivré des gens, qui a impacté véritablement, que le dimanche prochain, ce sera le cas. Il n'y a pas d'acquis. Tu te remets en question tout le temps. Alors oui, ce n'est pas facile. Parfois, on me pose la question, pasteur Christian, mais comment tu fais? Souvent, on me pose cette question, mais comment tu fais? Parce que nous savons que tu combines beaucoup de choses. Comment tu fais pour combiner tout ça? Ta famille est en Belgique. Ton travail est à Paris. Tu n'as quasiment pas de vacances. Et en plus, la lourde charge du ministère. Mais comment est-ce que tu fais? Et à cela, j'ai une seule réponse. Ce n'est pas une réponse que j'ai inventée, que j'ai fabriquée. C'est une réponse qui vient naturellement. Je ne suis pas sûr qu'il soit satisfait de cette réponse. Ma réponse, elle est simple. Quand on me dit, comment tu fais, pasteur, pour combiner tout ça? Je dis, je ne sais pas comment je fais. Je le fais, c'est tout. Je le fais, c'est tout. Et c'est ce que tu dois aussi apprendre à faire. Dieu te demande de faire des choses. Parfois, tu ne sais pas comment tu vas faire. Fais-le seulement. Parfois, on me dit, mais tu n'es pas fatigué à faire tous ces allers-retours? Ça ne te fatigue pas? Je dis, mais quelque part, hé, l'esprit ne se fatigue pas. C'est vrai que mon corps, parfois, il accuse le coup. Est-ce que je me pose la question de savoir, est-ce que dans 3 mois, je pourrais continuer à le faire? Est-ce que dans 6 mois, je pourrais continuer à le faire? Je ne me pose pas cette question. Je le fais et c'est tout. Ce dont j'aurai besoin, autant convenable, Dieu me le donnera. Alléluia. Et j'ai compris que si tu n'adoptes pas ce genre de mentalité, il y a des choses que tu ne pourras pas faire alors que Dieu voulait que tu les fasses. Parce que tu vas te dire, je n'ai pas l'endurance, je n'ai pas la connaissance, je n'ai pas l'expérience. Toi, tu n'as pas tout ça, mais celui qui est en toi, il a tout ça. Alléluia. Donc tu peux y arriver. Amen. Je vais terminer avec le 8e enseignement que j'ai appris. J'en ai tiré 8, il y en a plusieurs, mais ça c'est le 8e. J'ai compris que je devais constamment vérifier et veiller sur la nature de mon zèle. Si tu veux avancer correctement dans le couloir de ta destinée avec Dieu, bien-aimé, tu dois comprendre, tu dois constamment, dis avec moi constamment, constamment vérifier et veiller sur la nature de ton zèle. Et je vais finir avec ça. Parce que si tu veux servir Dieu efficacement dans l'église et dans la société, tu dois le faire avec le bon zèle. Le problème, c'est qu'il y a 4 sortes de zèle. 4. 4 sortes de zèle. Selon la Bible, il y a 4 sortes de zèle. Il y a le zèle pur, le zèle de Dieu, le zèle pur, l'enthousiasme, la passion qui vient de Dieu. C'est le zèle qui a animé Paul, qui a animé les disciples, qui a animé Jésus. Ça, c'est le zèle pur. C'est la première forme de zèle. La deuxième forme de zèle, c'est ce qu'on appelle le zèle sans intelligence. Le zèle sans intelligence, c'est souvent le zèle du tout nouveau converti, rempli de bonnes intentions, mais totalement immature. Il veut faire le bien, mais en même temps, il froisse les gens, il frustre les gens, il blesse les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, non? Le zèle du nouveau converti. Tous les chrétiens zélés sont passés par là à un moment donné. Ben oui, c'est le zèle sans intelligence. Ce n'est pas un zèle mauvais, ce n'est pas un zèle animé de mauvaises intentions. Mais en fait, en voulant bien faire, tu fais pas ce qu'il faut. Si quelqu'un me suit. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le zèle sans intelligence. C'est-à-dire le zèle sans sagesse. Il faut être zélé, oui, mais il faut avoir la sagesse quand même. On va faire comme ce frère à Bruxelles, vraiment, ah Seigneur. On devait présenter un bilan un peu des finances de l'Église pour l'année 2012. Donc on voulait le présenter à toutes les personnes qui soutiennent l'Église, toutes les stars et toutes les personnes qui soutiennent l'Église, pour qui en fait ICC Bruxelles et leur maison, hein, qui soutiennent la vision, qui soutiennent le royaume dans la dimension de l'Église locale. Amen. Donc j'avais donné des consignes à l'accueil pour dire bon, laisser passer pour cette réunion là d'information uniquement des personnes qui figurent sur une liste. Hein, certaines listes, enfin, des personnes qui voilà, on va pas laisser quelqu'un, on sait il est pas à l'église et puis il va venir voir quels sont les comptes. Non, je suis pas d'accord. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi amen. Alléluia. Non, ce frère. Donc je lui dis donc personne ne doit rentrer sans avoir passé par voilà la table. Donc à un moment donné, mon épouse, pasteur Evelyne, elle arrive, le frère zélé. Bon, je ne raconte pas la suite, hein, parce que tu as compris. Ça, c'est le zèle sans intelligence, sans sagesse. Troisième forme de zèle, c'est ce que la Bible appelle le zèle amer. C'est la raison pour laquelle j'ai compris que régulièrement, je dois constamment veiller sur la nature de mon zèle. Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je le fais pour motif personnel? Est-ce que je le fais pour me comparer aux autres? Est-ce que je le fais pour avoir quelque chose, pour avoir la reconnaissance des hommes? Est-ce que quelqu'un me suit? Je dois constamment veiller sur la nature de mon zèle. Est-ce que c'est un zèle pur, véritablement? Ou est-ce que c'est un zèle sans intelligence, c'est-à-dire sans sagesse? Est-ce que c'est un zèle amer? Parce que le zèle amer, le zèle sans intelligence, pardon, c'est le zèle souvent du nouveau converti. Le zèle amer, c'est souvent le zèle du vieux converti. Moi, j'appelle ça le zèle du cocobar. Oui, c'est le zèle du cocobar. C'est quelqu'un qui sert, tu le vois, il sert à l'église, il sert, mais en fait, dans son cœur là, il y a de l'amertume. Il sert avec de l'amertume. On a un exemple clair dans la Bible. On en a même plusieurs. Mais un des exemples les plus flagrants, c'est le grand frère du fils prodige. Il était zélé, oui ou non? La Bible dit qu'il servait dans la maison de son père. Il servait tous les jours. Il servait. Et quand son petit frère revient, son petit frère comprend qu'il a commis une grave erreur. Et donc il revient dans la maison de son père. Son père est tellement content, tellement heureux, qu'il fait tuer le veau gras et puis il fait un festin. Et le grand frère, il revient, il entend du bruit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête, qu'est-ce qui se passe? Un serviteur vient lui dire, en fait, c'est ton père qui a tué le veau gras parce que ton petit frère vient de revenir à la maison. Il dit, comment ça? Mon petit frère est revenu à la maison? Et mon père lui fait un festin comme ça. Il dit, je ne rentre pas à la maison. Le serviteur lui dit, mais ton frère est revenu, rentre. Il dit, je ne rentre pas à la maison. Le serviteur rentre à la maison, il dit au père, mais le petit, l'aîné vient d'arriver, mais il ne veut pas rentrer. Le papa se demande, mais comment ça? Son petit frère est là. On fait un festin parce qu'il est là. Il était perdu, il est revenu à la vie. Appelle-le. Le serviteur repart. Le papa dit de rentrer. Il dit, je ne rentre pas. Papa dit de rentrer, je ne rentre pas. On envoie tous les autres serviteurs. Papa dit de rentrer. Il dit, je ne rentre pas. Papa est obligé de sortir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, regarde comment je t'ai servi. Comment je t'ai servi. Il servait. Il servait. Regarde comment je t'ai servi de, avec tous les jours, sans rien dire. Et jamais tu n'as même, tu es même je ne sais plus quelle expression il emploie, mais tu n'as même pas, globalement, littéralement, tu n'as même pas, tu es un petit, même un petit moineau pour moi. Et pourtant, je t'ai servi, je t'ai servi, je t'ai servi. Autrement dit, j'attendais une promotion. J'attendais quelque chose. Et le père lui dit, mais attends, mais, donc tu n'as rien compris depuis toutes tes années. Je n'avais même pas à sortir le veau gras. Pourquoi? Parce que ce qui est à moi est à toi. Tu voulais faire un festin, mais tu prends ça à toi. Je n'ai pas à te donner, c'est à toi. Tu es mon fils. Ça, c'est un zèle amer. Le zèle amer, c'est souvent le zèle du cocobar. Celui qui sert dans l'église depuis longtemps, il sert. À un moment donné, il pensait qu'on allait le nommer responsable du ministère. À un moment donné, il pensait qu'on allait le nommer assistant pasteur. Il pensait qu'on allait le nommer responsable de campus. Et puis, ce n'est pas lui qu'on a nommé. Et son zèle qui était au départ, un zèle sans intelligence, qui a été ensuite amélioré en zèle pur, est maintenant mis à mal et commence à devenir un zèle amer. Il continue à servir. La personne continue à servir, elle continue à servir. Et puis, à un moment donné, contre toute attente, vous entendez qu'il y a la personne, en fait, elle déclenche quelque chose, un mouvement de colère ou quelque chose qui épate tout le monde. Il dit, le frère là, oui, oui. La sœur là, oui, oui, elle a giflé l'autre sœur. Mais comment ça? Mais celui qui servait toujours avec humilité. Non, non, c'est pas parce que quelqu'un sert comme ça qu'il sert avec humilité. Ça, ça veut rien dire. Alléluia. Veille sur la nature de ton zèle. Et je termine avec la dernière forme de zèle. C'est ce que la Bible appelle le zèle impur. Le zèle pur, c'est le zèle. Le bon zèle pour Dieu. Le zèle sans intelligence, c'est un zèle qui n'est pas animé de mauvaises pensées, mais qui est sans sagesse. Le zèle amer, c'est un zèle qui est rempli d'amertume. Le zèle impur, c'est un zèle qui cherche à détruire ce que Dieu construit. C'est ça le zèle impur. Il est clairement destiné à détruire. C'est ce que l'apôtre Paul, c'est ce dont l'apôtre Paul parle. C'est un zèle qui vise à détruire volontairement ce que Dieu est en train de bâtir. Et il y a des gens qui sont mandatés, non pas par Dieu, parce que Dieu ne mandate pas ce genre de choses. Dieu mandate, Dieu dit, je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu détruises. Amen. Pour que tu ruines. Mais pas pour que tu ruines ce que je construis. Pour que tu ruines les fondements établis par le royaume des ténèbres. Il y a des gens qui se croient mandatés par Dieu, pour tirer sur tout ce que Dieu fait. C'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que cette chose est mal inspirée. Faire attention. À un moment donné, tu vas tirer, après tu vas te rendre compte que, ah, mais finalement, un jour tu as une révélation, tu découvres dans la parole que ce que les personnes faisaient, elles le faisaient sur une base biblique et sur une inspiration divine. Il y a des gens qui sont animés d'un zèle impur, un zèle qui cherche à détruire. Parce que Jésus dit, on reconnaît un arbre à son fruit, n'est-ce pas? C'est le fruit qui compte. C'est le fruit. C'est le fruit. Si le zèle, il amène quelqu'un à abandonner la foi, quelqu'un qui avait une bonne trajectoire avec Dieu, à régresser, mon ami, c'est pas Dieu qui bâtit. Bien-aimé, j'ai compris qu'il fallait faire attention à la nature de notre zèle. Mon frère, ma sœur, tu sers Dieu. Avec quel zèle sers-tu Dieu? Est-ce que c'est un zèle pur? Est-ce que c'est un zèle sans intelligence, sans sagesse? Est-ce que c'est un zèle amer? Si c'est un zèle amer, un zèle sans intelligence, change ça. Si c'est un zèle impur, repens-toi. Est-ce que nous pouvons incliner la tête? Seigneur notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous voulons te bénir et nous voulons te remercier pour ta parole et pour ta présence. Assurément, c'est ta présence qui fait la différence, Seigneur. Et c'est ta parole qui convainc. Merci pour cette parole. Merci de ce que au travers de cette parole, quelqu'un a été édifié, quelqu'un a été encouragé, exhorté, fortifié. Nous te bénissons pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que nos vies comptent. Ma vie peut et doit compter. La vie de mon frère peut et doit compter. Elle doit compter, Seigneur. Parce que tu nous as tout donné. Tout ce dont nous avons besoin, tu nous l'as donné. Tu nous l'as donné. Peut-être pas de manière manifeste, mais la provision totale est là. Et elle se libère au fur et à mesure que nous faisons un pas après l'autre. Seigneur, merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci, Seigneur, pour le zèle dont elle est animée. Merci, Seigneur, pour les dons, les talents, les aptitudes, les capacités que tu lui as données. Merci, parce qu'il est extrêmement intelligent. Elle est extrêmement intelligente, Seigneur. Tu lui as donné une forme d'intelligence, des formes d'intelligence prédominantes qui leur permettent d'élargir leur voix et d'avoir accès auprès des grands. Non pas pour leur propre gloire, mais pour qu'au niveau les plus élevés, ton nom soit proclamé, craint et révéré. Et afin que nous soyons véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Père, merci. C'est avec foi et avec de toutes nouvelles résolutions que nous t'avons ainsi prié. Dans le nom le plus beau, dans le nom qui nous a rassemblés ce matin, dans le nom qui nous aidera à accomplir l'intégralité de notre destinée en Christ. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
On va encore acclamer le Seigneur avec vie et assurance. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce. Nous sommes reconnaissants de cette parole que tu nous donnes. Marchez vraiment dans cette vie de grâce et d'amour. Que ton nom soit béni. Merci pour l'instrument que tu as utilisé, Seigneur. Donne-nous aussi, Seigneur, la sagesse de dominer, de surmonter. Seigneur, surtout d'aller de l'avant pour la suite de notre vie sur terre. Nous voulons vraiment manifester ta vie sur terre. Les épreuves de la vie, Seigneur, tout ce que l'ennemi va susciter, surtout donne-nous la sagesse, la connaissance, que l'ignorance puisse s'éloigner de nos vies. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons saluer nos bien-aimés internautes.